avec BFM Business. Ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ces Goûts de Luxe du week-end, histoire de vous présenter les nouvelles adresses, les must-have ou encore les hit-bags. Bref, tout ce qui va vous séduire en compagnie de mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et ce week-end, en cette veille de la semaine du goût, eh bien nous nous sommes dit que nous aussi, nous allions tenter de vous éduquer au goût, aux saveurs, aux assemblages, aux produits, à la dégustation. Mais pour ça, bien sûr, on s'est entouré des meilleurs chefs, des meilleurs cours de cuisine de la capitale. Autant vous dire la crème de la crème. Nous serons en compagnie du chef étoilé Eric Briffard, qui officie maintenant au nouvel institut Cordon Bleu, de Julien Mercier. Il est chef exécutif de l'école de cuisine Alain Ducasse. Julien Lenné, il travaille à l'atelier des chefs. Et Loïc Cabrero, il est chef pâtissier de la Grande AP et épicerie de Paris. Bah oui, tout ça, ça donne faim déjà. Attention à vos recettes, c'est parti, mais d'abord les nouveautés de la semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour les nouveautés de la semaine, d'abord, on accueille Sandy Pronoy. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Pour le Web de Luxe dans quelques instants.
Et on commence. Nouvelle, hein.
Mais elle est avec nous pendant les nouveautés.
Ça commence.
Je tape direct.
C'est comme votre nouvelle table de la semaine. Elle n'est pas nouvelle, le Divelec.
Ah, alors c'est ça le paradoxe. C'est qu'effectivement, ça a été une table culte. On est l'esplanade des Invalides à Paris dans le 7e arrondissement. Le Divelec, table culte des années 80 jusqu'aux années 2000. Vraiment. Orchestré par un pacha. Un chef qui s'appelait Jacques Le Divelec et qui avait réussi à constituer une clientèle. Il faut savoir qu'on est dans le 7e, hein, donc quartier des ambassades, des ministères, de l'Assemblée. Il avait une clientèle à la fois de mondains et de politiques. C'était vraiment une cantine de la République où l'on servait une cuisine marine à des gros et des petits poissons de ce milieu-là.
Depuis Sauf que c'est fermé. Mais
depuis 4 ans, l'adresse est fermée.
C'est ça qui est dingue.
Mais ce qui est dingue, c'est que tout le monde a l'impression que Le Divelec n'a jamais fermé.
Ouais.
Sauf que c'est fermé depuis 4 ans et relancé depuis quelques jours par un certain Mathieu Pacaud. On en parle souvent ici, c'est le nouvel homme fort de la gastronomie parisienne, et pas que. Mathieu Pacaud, son père, orchestre Lambroisie, 3 étoiles Michelin. Mathieu Pacaud, il a lancé il y a 2 ans l'Hexagone et un restaurant qui s'appelle l'Histoire du côté de l'avenue Kléber à Paris. Il a 3 étoiles déjà avec ses 2 adresses. Et aujourd'hui, il commence à s'aimer dans le monde entier. Et il est en Corse, il est à Macao et à Paris. C'est lui qui reprend le Divelec, associé à pas
D'ailleurs,
mal de monde.
D'ailleurs, ça s'appelle Divelec maintenant.
Et désormais, première nouveauté, ça s'appelle Divelec. C'est plutôt pas mal d'avoir gardé le nom. Ils savent que la matrice est forte. Le décor, drôlement réussi. Un décor qui va jouer sur des codes un peu années 50, 60, 70. L'idée du storytelling des décorateurs, c'est de se dire, voilà, on imagine des propriétaires de restaurants, une grande famille, très old school, qui laisseraient les clés de la maison à ses enfants. Et ces enfants, ils vont transformer l'adresse pour en faire un lieu de fête. Alors, il y a plein d'espaces comme ça, une salle à manger, dans un angle, il y a un salon privé, il y a un bar qui vous accueille, qui servira bientôt des sushis, des ceviches, il y a du poisson cru. Il y a une terrasse qui sera ouverte dès le petit matin et puis une cuisine absolument très réussie. Mathieu Pacaud, c'est quelqu'un qui est à la fois très créatif, qui est vraiment sensible et qui a une vraie personnalité. Et donc, on a vraiment une cuisine marine pointue. Mais dans le même temps, il a compris qu'il fallait l'énergie de l'époque d'une adresse ouverte sur Paris, sur la capitale, sur le monde. Et c'est vrai qu'il va signer des plats, notamment des poissons qui sont juste travaillés au grill, servis avec la tête et les arêtes. Il va faire ce qui est la grande mode en ce moment, proposer des plats de partage. C'est-à-dire qu'il y a notamment...
Il prend toutes les bonnes tendances du moment et il les met dans son resto.
Vous pouvez avoir des produits très pointus. Il faut voir son travail autour de l'huître et sur un coulis de cresson. Légèrement tiédi, c'est parfait. Et puis alors ce plat de partage, vous avez...
Et l'addition, ça fait mal ou pas ?
Mais non, parce que vous zappez.
D'accord.
Vous pouvez très bien aller au bar au midi pour manger 3 sushis et 2 cevicheria. Vous en aurez pour une vingtaine, trentaine d'euros.
Divelec.
Et le soir, vous pouvez y aller entre bandes. Et là, ça commence à tâter.
On rappelle l'adresse, 18 rue Faber, dans le 7e arrondissement.
C'est l'adresse la plus courue du moment.
Donc, il faut réserver. Attention. Donc, je le disais tout à l'heure, on est à la veille de la semaine du goût. Et du coup, je vous ai trouvé le palmarès des associations les plus incroyables, voire improbables. Je commence par celle-là. Et en même temps, je trouve ça gonflé. Et de temps en temps, ça fait du bien. Caviar, vodka, Petrosian et Maison du Chocolat. Eh ben ouais. C'est-à-dire qu'on a un petit coffret qui sort en ce moment même. On a... qui ressemble justement à du caviar. Ouais, c'est un
petit peu, du caviar. Ouais.
Voilà. 10 pièces de chocolat ganache noir et vodka. et 10 pièces de chocolat ganache noir iodé de caviar. Emmanuel, je vais vous laisser goûter pendant que je réponds parce que je sens qu'il faut votre avis là-dessus.
J'ai votre cas, j'ai aucun problème.
À découvrir à la Maison du Chocolat, c'est des toutes petites bouchées. Et chez Petrossian, le maître du caviar, en ce moment, c'est pour 32 euros. Et Nicolas Cloiseau, à la Maison du Chocolat, il avait déjà fait parler de lui parce qu'il avait réalisé des chocolats aux légumes. Qu'est-ce que ça donne, Emmanuel ? Vous le sentez, le caviar ? C'est réussi ?
C'est réussi, ouais. C'est drôlement réussi.
Ça lui fait mal de le dire, mais c'est réussi.
Non, non, c'est réussi.
Dégustation directe.
Parce que, comme vous dites, on n'est pas vraiment dans le caviar. Par contre, on est dans le iodé du caviar.
Voilà.
Et le iodé, c'est une saveur. Vous savez, la mer, le sucré, le salé, l'acide. L'iodé, on ne le travaille pas assez. Et là, ça revient en rétro-olfaction. Il y a une longueur en bouche et ça revient en arrière-goût. D'abord, on est très chocolat. Et puis après, il y a ce petit retour iodé qui est... Si on nous disait pas c'est du caviar, mais pas tant que ça.
Eh ben voilà.
Déroutant, mais super équilibré. Il y a deux belles maisons qui s'associent. Alors là, autant j'aime pas tellement ce genre de tectonique, mais ici, ça marche.
Alors, l'autre association, attention, ça s'appelle du food pairing. Qu'est-ce que c'est du food pairing ? Vous le savez ou pas, vous qui parlez couramment anglais ?
Là, là, non, je suis fixée sur les chocolats.
Vous voulez
là,
goûter
là,
les chocolats, on va vous faire passer les chocolats.
On va dire, c'est plus facile, mais ça marche. Hein.
Le food pairing, c'est l'association, en fait, de saveurs entre deux aliments. Donc, vous prenez le meilleur pâtissier du monde, j'ai nommé Pierre Hermé. Vous prenez... Et c'est là, en revanche, j'ai pas goûté. Vous prenez Lipton. Bon, c'est là qu'il va falloir tester. Ouais, ouais. Théo by Lipton. Vous prenez quand même le Tea Master qui s'appelle Kourouche Baroucha. Ils ont travaillé ensemble pour faire non pas un macaron au thé, mais un thé qui va s'associer à un macaron. Donc le macaron, c'est le macaron que je me trompe pas. Ganache à la rose, à la fleur d'oranger et au gingembre. Et le thé, il est au citron vert à la cubaine numéro 29. Et l'idée, c'est que tout ça, ça doit se déguster ensemble. C'est ça, le food pairing. Ouais. C'est une expérience gustative.
Donc, vous faites ça. Plus tordu.
Sinon, vous achetez le macaron jardin oriental chez Pierre Hermé jusqu'au 30 octobre. Et le thé Théo by Lipton citron vert, sur le site de Lipton. Et vous faites votre expérience tranquille, tout seul, à la maison. Et puis, sinon, vous avez terminé votre chocolat, Sandy. On peut y aller pour Web Deluxe ?
Ouais, allez, c'est parti.
Allez, c'est parti, Web Deluxe.
Goût Deluxe Paris, l'édition du week-end. Web Deluxe.
Vous avez suivi la Fashion Week de Paris qui, ça y est,
en
terminée
long, en large, en travers.
Sur votre ordinateur.
Ouais, et en vrai aussi, ouais. Ça n'a pas arrêté. J'ai plein de choses à vous dire, je vais faire court. Il y a eu beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux. D'abord sur Instagram avec Dior, qui, vous l'avez peut-être vu, a proposé juste avant le défilé, évidemment on peut encore y accéder, tout un tas de séries de vidéos courtes en noir et blanc, très bien filmées, pour montrer les petites mains, l'envers du décor. Donc c'est le service presse, c'est les castings de mannequins, c'est les couturières, évidemment tous les ateliers différents en couture, petite finition, etc. C'est vraiment super. Voilà, ça c'était côté Dior sur Instagram. On peut encore y accéder.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les coulisses. Là, Instagram permet justement de voir les préparatifs, les coulisses, ce à quoi on n'a pas accès d'habitude chez Dior.
Et c'est bien fait.
Ok, pardon.
Première chose. Deuxième chose, sur Instagram, toujours toutes les blogueuses, les grands noms de la mode. On a Alexandra Golovanov, Caroline de Maigret, enfin tous ces grands noms, mais aussi les plus petites, mais qui sont hyper connues dans la Fashion Week, ont proposé aussi tout un tas de photos pendant les défilés, les catwalks, les after shows. C'était évidemment complètement passionnant quand on y était en vrai et quand on était après sur l'écran. Bah, évidemment, on se laissait. Ouais, pour ceux que ça passionne. Mais il y en a beaucoup quand même.
Bien
parce
sûr.
Qu'elles ont un certain
bien
nombre
sûr.
De followers.
Il y avait même Rihanna.
Rihanna qui a profité de la Fashion Week pour promouvoir son premier gloss, premier produit de la marque qui va sortir à l'automne, cet automne chez Sephora. Sa marque, elle s'appellera Fenty Beauty by Rihanna. Jacquemus, il en a fait des caisses, c'était superbe. On a adoré Jacquemus. L'achat instantané aussi. Burberry en tête des positions avec la Fashion Week de Londres qui, en fait, dès que les mannequins défilaient sur le catwalk, on pouvait tout de suite acheter sur le site de Burberry les pièces qu'on découvrait. Donc, superbement orchestré. Il y a eu aussi tout un tas d'opérations digitales sur Facebook, Facebook Live, Facebook Messenger, Snapchat, WeChat, où on pouvait acheter des pièces en particulier sur ce réseau-là. Énormément de choses, même un site, The Art of the Trench, côté Burberry toujours, qui promouvait les photos des followers, des gens sur la toile qui photographiaient les trenches de Burberry et qui les mettaient sur ce site. Lui encore, il est toujours accessible. Beaucoup, beaucoup de choses et c'est pas fini. Je vais
finir rapidement avec le luxe connecté.
Le luxe connecté avec la maison To & Guy qui a carrément chamboulé les codes de la mode en proposant un défilé version 3D. Donc on met le masque sur la tête et puis on découvre les pièces comme ça. Ça
c'était en 360.
En 360, des pièces
à vous savez les casques virtuels,
ouais, hein, ouais. Regardez ça. On se baladait comme ça. Ça c'était à la maison du savoir-faire et de la création, des pièces qu'on peut retrouver aujourd'hui hein, qui sont pas encore, enfin on peut accéder à cette expérience là, vous allez voir sur le site, tout est en ligne. Et puis enfin le créateur Hussein Chalayan qui a collaboré carrément avec Intel. Alors là pour nous créer Intel pour des lunettes spéciales qui en fait captent les vibrations, les trucs du cerveau. Alors là m'en demandez pas trop, je sais pas exactement comment ça marche.
C'est pour mesurer le stress des mannequins.
Alors pour mesurer le stress des gens qui la portent, la lunette renvoie l'information à la ceinture, ultra mode aussi la ceinture. La ceinture, elle projette l'information sur un mur. Ce qui fait que pendant le défilé, on voyait que les mannequins étaient carrément stressés de se casser la figure sur le catwalk. Intéressant, fashion, wouh, on n'arrête plus la technologie.
Fashion, intéressant, je suis pas sûr.
Intéressant, si, bah intéressant quand même.
Ça vous intéresse c'est du jamais qu'elles vu. Sont stressées.
Oui. Non, ça m'intéresse
c'est
pas, mais
c'est
jamais rien. C'est technologique, c'est de la nouveauté, c'est de la
réussite. Que les applications soient autres quand même
en
que
tout
la.
Cas, la ceinture et les lunettes sont plutôt pas mal réussies. C'est,
oui,
c'est,
oui,
c'est,
non,
beau,
c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Merci,
voilà.
Merci,
on va
merci. J'arrête, j'ai trop parlé aujourd'hui.
Emmanuel, j'ai encore le temps.
30 secondes.
Ah, ça dure, c'est une belle histoire, c'est dommage.
Bah, sinon, moi j'enchaîne.
Vous savez quoi? Je trouve tellement que l'histoire est belle.
Que vous la gardez.
J'ai pas envie de la traiter en 30 secondes. Ça se passe du côté de l'avenue des Champs-Élysées, au 50 avenue des Champs-Élysées. Vous avez une semaine par découvrir par vous-même. Pour ceux qui n'ont pas le temps, j'en reparle la semaine prochaine. C'est l'histoire entre J.M. Weston, le Saucer, et le Gaumont Ambassade, un et cinéma culte. Les deux ont fermé, mais ils se retrouvent. On en reparle la semaine prochaine.
Et ben moi, je vais finir comme ça, très rapidement, avec mes deux objets du jour. Il y a de grandes expos parisiennes, et notamment, il y a Roger Talon, on en a déjà parlé, grand designer, le design en mouvement au musée des Arts Déco. C'est pas de ça dont je veux vous parler, ça, vous allez voir l'expo. En revanche, Roger Talon, il avait notamment réalisé des couverts pour Aircuit, et qui sont donc réédités. Ils ont été créés en 1967, Alain Ducasse les a choisis en 2014 pour son restaurant éponyme à l'hôtel Plaza Athénée. Et donc là, ils sont réédités à l'occasion de cette exposition. Et c'est carrément les couverts 3T, ça s'appelle, parce que c'est un concept global de service de table. C'est hyper moderne et ça a été fait en 1967 par Exactement. Roger Talon. C'est ça qui est extraordinaire. La deuxième chose, pour vous faire repérer dans les aéroports, grande expo. Magritte au Centre Pompidou en ce moment. Samsonite vous met du Magritte sur votre Cosmolite, c'est comme ça qu'on l'appelle, le modèle. Vous avez ou le fils de l'homme ou l'oiseau du ciel, et quand vous ouvrez, vous avez même la malédiction, ses nuages et son chapeau melon.
Donc c'est des valises Magritte, quoi.
C'est des valises Magritte. C'est pas génial, ça?
Elles vont se faire piquer, celles-là.
Exactement, parce qu'elles sont tellement belles qu'on risque de vous les piquer. Allez, tout de suite, on vous l'a dit, on vous est dû au goût, attention, avec la crème des chefs et des ateliers de cuisine. Pendant ce temps-là, vous finissez de déguster votre chocolat, elle n'ose plus parler sans omnipreneur. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci, à tout de suite, le luxe de la semaine.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine.
Et le luxe de cette semaine, c'est de s'inviter à un cours de cuisine et enfin de découvrir ce qu'est le goût, le vrai goût et la science des saveurs. Alors attention, on a pris la fine fleur des cours de cuisine parisiens. Nous sommes en compagnie du chef Éric Briffard. Bonjour.
Bonjour.
Chef exécutif et directeur des arts culinaires à l'Institut Cordon Bleu. Ça, c'est pour votre titre actuel. Vous êtes
Tout
aussi mauve. Vous avez eu 2 étoiles au Georges V et je m'arrête là parce que sinon, on n'en sort pas. À vos côtés, Julien Mercier. Bonjour.
Bonjour.
Chef exécutif de l'école de cuisine Alain Ducasse. Vous avez fait aussi un beau tour du monde. Vous êtes déjà passé par de belles tables chez Benoît, à Tokyo, au Spoon, à Londres, au Royal Monceau, à Paris, etc. etc. Et voilà, en ce moment, vous êtes à l'école de cuisine Alain Ducasse. Vous nous raconterez ça dans un instant.
Il est professeur.
Ouais.
Il n'est pas repassé à la case élève.
Ah bah non, évidemment, on est là pour prendre des cours avec vous. Loïc Cabrero, bonjour.
Bonjour.
Chef pâtissier de la grande épicerie de Paris. Et donc, à vos heures perdues, vous donnez des cours aussi comme ça?
Nous donnons des cours.
Vous partagez votre savoir-faire?
Tout à fait.
Ça, c'est plutôt sympa. Vous savez que donc, à la grande épicerie de Paris, on peut aller prendre des cours de pâtisserie. Et puis aussi, Julien Lenné, bonjour.
Bonjour.
Et chef pour l'atelier des chefs. Bah oui, parce que l'atelier des chefs porte bien son nom, il n'y a que des chefs. Hein.
Exactement.
C'est bien ça.
C'est un peu qu'on lançait quand même.
Ah bah
la grande dynamique de ces cours de cuisine.
C'est ça, on va commencer par
il y a 12 ans maintenant. En 2004,
et maintenant, je regardais 16 ateliers dans 8 villes de France.
Exactement, ouais. 2 à Londres aussi, pour l'étranger. Les grandes villes, 5 sur Paris et quelques grandes villes en province.
C'est quoi l'idée de l'atelier des chefs? C'était de cuisiner facile?
Pas de cuisiner facile, c'était de ramener les consommateurs au fourneau en leur proposant des recettes simples avec des techniques. Et un petit peu de démystifier quelques techniques pour que eux puissent se réapproprier des recettes et plus être perdus. Et surtout retourner cuisiner avec effectivement des recettes pas forcément simples mais adaptées à la cuisine du quotidien. Et qu'ils puissent après repartager derrière et passer un bon moment chez nous.
Alors on va revenir un petit peu sur ces cours de cuisine en matrice. Mais comment on devient professeur d'un cours de cuisine quand on est chef?
Chef professeur.
Ou chef professeur. C'est quoi? C'est intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier ouvert, chef, ça peut vous amener loin et longtemps, et un peu partout. Mais comment on arrive finalement à se dire, mon métier, ça va être d'être professeur de cuisine et pour les particuliers?
Il y a un moment où vous avez envie de partager.
La transmission.
Voilà, il y a un moment où on se dit, ok, là, je cuisine pour moi, que ce soit dans une place, dans son restaurant ou pour quelqu'un. Et puis, il y a un moment où on a envie d'inculquer, en fait, aux gens, c'est la passion qui nous anime pour la cuisine, ce goût aussi pour la cuisine, le goût des bonnes choses. Et de se dire, le meilleur moyen, c'est tout simplement de leur dire, venez dans ma cuisine, on a une recette, je vous propose une recette, elle vous plaît, on la fait ensemble, je vous explique pourquoi, comment. Et vous, après, vous repartez avec la recette et vous la refaites chez vous et vous la remontrez à vos amis, vous dites, j'ai appris à faire ça, c'était comme ça, c'était génial, refais-la chez toi, tu verras. Ça sera aussi génial.
Mais alors, dans la continuité de ce que vous dites, je me tourne vers vous, Éric Griffard. Justement, quand on a été 2 étoiles au Georges V et qu'on se retrouve, parce que, bien sûr, le cordon bleu, c'est d'abord et avant tout des étudiants, des professionnels qui vont... Mais il y a aussi, c'est aussi ouvert aux particuliers.
Tout à fait.
À un moment, ça vous agace pas, vous, quand vous avez vu ça, vous avez l'habitude de travailler avec des brigades, on arrive complètement béotien, parfois, même si j'imagine qu'au fil des années, le niveau s'élève, ils savent pas couper 3 carottes et mélanger 2 trucs.
Alors, je reviens exactement un peu pareil. Vous savez, moi, il n'y a pas de grand ou petit cuisinier, etc. Il y a le même dénominateur commun, je pense qu'on a là. C'est des gens qui sont passionnés par le beau produit, etc. J'ai eu cette même réflexion. Déjà, je suis dans la transmission, je suis dans le compagnonnage depuis toujours. Et la transmission, ça me parle. Et tous les chefs sont aussi dans cette transmission. Particulièrement, par rapport au fait d'avoir des recevoir des gens. J'ai l'habitude d'aller faire mon marché. J'avais même lancé au Georges V de faire le marché avec le chef. Donc c'est ce que je vais continuer au Cordon Bleu, où j'emmène mes clients faire le marché, marché de Saint-Charles, président Wilson, on allait voir tous Joël Thiébault, etc. Et après, justement, le marché, parce que je fais le marché moi-même tous les week-ends, et à chaque fois, je vois les gens, le poissonnier, votre dorade, comment je la cuis, etc. C'est incroyable de voir le béaba pour tellement de gens qui n'ont pas les bases de clés, de techniques, mais de simplicité. C'est pas de partir dans une grande cuisine. Et vous savez, quand vous avez la passion des produits, etc., instinctivement, je le fais sans arrêt au marché, etc. Donc aujourd'hui, je le fais à une autre échelle par rapport à des étudiants. Vous savez, le Cordon Bleu, c'est 35 instituts à travers le monde. On a 20 000 étudiants par an dans nos écoles.
C'est la grosse
machine, hein. Où là, on fait vraiment du management hôtelier, etc. Mmh. Nous, à Paris, là, sur notre nouvel institut sur le Cordon Bleu, sur les quais de Seine, juste à côté de Bourgogne, face à la Statue de la Liberté, là, on a vraiment des dispositions vraiment de classe magnifique, ultra moderne, technique. Franchement, là, on était plus que gâtés avec vue sur la Seine. Et là, avec beaucoup de modestie, je vais inculquer à vraiment une transmission du geste simple, juste pour donner aux gens vraiment cet échange.
Alors on va voir comment s'orchestre cette transmission. Mais on voit bien, le premier mot, c'est la transmission.
Complètement.
Alors jusqu'à présent, les chefs, c'est vrai qu'ils étaient enfermés dans leur grotte. Leur transmission, c'était d'abord de le faire à ceux qui allaient devenir de nouveaux chefs. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 15-20 ans, notamment les grands chefs, ont envie de partager au grand public.
C'est la transmission des grands-mères qui ne s'est pas faite, comme on dit.
Exactement. Vous êtes en train de combien vide.
Totalement.
Alors, autour de cette idée de la transmission, on est du côté de l'école Alain Ducasse.
Julien,
professeur chez Alain Ducasse. Là encore, c'est intéressant. Ducasse, lui aussi grand chef, qui matrice je ne sais combien de restaurants à travers le monde, qui a toujours orchestrer des équipes. C'est pour ça que le succès de Ducasse, c'est d'avoir eu des seconds, des brigades à travers le monde et d'avoir tout de suite misé sur la formation. Cette formation, elle était d'abord, j'allais dire, pour les cuisiniers entre eux, entre professionnels. L'idée de Ducasse, quand il a ouvert cette école, ouverte en partie au grand public, c'était quoi? Là encore, la transmission?
C'est ça, c'est de partager, de rendre accessible un peu tous ces restaurants et de démystifier, comme on disait, les plats en eux-mêmes qu'on allait faire et de montrer que finalement c'était relativement simple ce qu'on pouvait faire. Il fallait juste apprendre les bons gestes et puis reconnaître les bons produits et savoir comment les utiliser correctement, quoi. Après, le but, nous, à l'école, c'est vraiment la ligne conductrice, c'est que les gens repartent de l'école en sachant reproduire ce qu'ils ont appris avec nous et se rendre compte que c'est simple à faire, et que ça reste simple à faire.
Non, mais c'est ça. Alors, d'abord, je voulais dire un mot des locaux, parce que chez vous, c'est pas mal aussi. Ouais. 500 mètres carrés, dessiné par Pierre-Yves Rochon. Donc, quand même, en général, vous faites des lieux assez sympas. C'est un peu plus grand que la cuisine, quoi.
Juste magnifique.
Juste magnifique. Et donc, quand on dit Ducasse, moi, ça me fait peur. Moi, je dis, je vais jamais aller prendre un cours à l'école Alain Ducasse parce que je suis pas assez douée. Est-ce que vous faites même des choses pour les débutants? Vous proposez
fait,
même
le BABA? On fait pour tous les niveaux. Il n'y a pas vraiment de niveau dans nos cours, en fait. Mm-hmm. Le niveau, ça veut dire, c'est un peu nous, les professeurs, qui allons le mettre. On va se rendre compte de la personne qui est en face de nous. Si elle arrive tremblotante, un petit peu en ayant peur, ça arrive.
Oui,
c'est à nous d'avoir un discours, en lui montrant les gestes basiques, mm-hmm, et voir ceux qui sont un peu plus déjà habitués à cuisiner, leur donner les choses les plus techniques à faire. Histoire que cette personne-là n'ait pas peur et se sente pas, repart pas d'ici en ayant, finalement j'arrête de cuisiner. Ouais. C'est trop compliqué. Le but, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de très accessible et de rendre la cuisine facile, en fait.
Est-ce que vous commencez, par justement présenter les produits? Oui. Éric Briffard nous parlait de l'importance du marché. Et c'est ça, c'est
hyper important. La première chose qu'on fait, parce qu'on va utiliser des produits que des fois les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser, une qualité de produits qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de prendre. Donc c'est important de leur montrer les produits et puis de leur expliquer un petit peu, quand M. Briffard parlait des poissons, regarder un petit peu le coup d'œil qu'il faut avoir quand on va sur le marché, regarder les mauvais signes, comment savoir que le poisson est frais.
Ne pas partir avec des idées préconçues, je dis toujours aux clients, mais partez pas avec des idées préconçues d'un menu fait à l'avance, c'est le coup d'œil, c'est le marché, vous voyez, il faut y aller au produit. En ce moment, c'est l'automne, il y a tellement de belles choses, pourquoi dire on va manger des sols à midi, ce sont pas au top, c'est dommage.
Donc je vous rappelle d'abord, c'est une leçon de choses, vous rappelez la saisonnalité et ensuite le coup d'œil. On sait qu'un grand chef, ça doit manier trois choses, et la première chose, c'est avoir le sens du produit. Tous vos cours commencent bien par cette connaissance du produit.
Il y a une vraie pédagogie à faire aujourd'hui sur la science du produit. Ça nous paraît un peu banal à nous parce que on vit dedans.
Mais à la limite, si on est sur les gestes et sur le suite du cours, on n'est pas très doué, au moins on est sûr je sais comment reconnaître une sole, quelle est la saison. Là, c'est la saison des Saint-Jacques. Ouais. C'est pas la peine d'y aller au mois de juin prochain.
Exactement. Voilà. Puis les gens auront un nouveau regard.
Loïc va parler. Mais Loïc, je réserve avant de parler. Parce qu'on dit toujours que les cuisiniers, c'est un vrai savoir-faire. Alors les pâtissiers, en termes d'exigence, c'est quasiment des chimistes, en termes de matériel parfois, et en termes d'appréhension, j'ai l'impression que c'est toujours beaucoup plus délicat.
Non,
je trouve que les chefs, il y a un côté plus instinctif chez les chefs, et il y a un côté plus scientifique chez les pâtissiers. Comment on arrive à faire passer ça au grand public? Ou là, on a le droit de trembler quand même quand on arrive face à un pâtissier?
Non, pas du tout. Je pense que c'est une question d'instinct et il y a une question de précision. Un pâtissier a besoin d'une balance, le cuisinier aussi, plus d'un thermomètre, peut-être le cuisinier, mais le pâtissier a besoin d'une balance. C'est le produit numéro 1.
Et
c'est
le chef est meilleur quand il y a une balance aussi, d'ailleurs.
Je suis d'accord, mais je vais prendre un truc basique. Maintenant, il y a des cours de cuisine, ça commence vraiment à prendre, il y a une vraie sociologie du genre. Mais jusqu'à présent, quand on voulait un petit peu s'essayer aux choses chez soi, on prenait un livre de cuisine ou un livre de pâtisserie. Très sincèrement, c'est pas toujours évident, mais quand on se lance dans la cuisine, qu'on prend un livre de recettes, on arrive à peu près à ses fins. Très sincèrement, dès qu'on prend un livre de pâtisserie, je vais prendre un basique, un éclair. Moi, j'ai jamais réussi à le faire chez moi.
Parce que les recettes,
ça
ne marche pas.
Alors, ne dites pas ça, tous les plus grands pâtissiers écrivent des livres. J'arrive à suivre à peu près une recette de cuisine. La pâtisserie, est-ce que c'est le matériel? Est-ce que ça ne marche pas? Moi, je ne peux pas faire un éclair chez moi. J'arrive à faire un pot-au-feu.
Je pense qu'il y a un coup de main, en fait. Il y a un coup de main. Il faut d'abord le voir le faire pour pouvoir le reproduire. Voilà, c'est un coup de main. Le produit est important, les matières de base sont importantes, mais également le coup de main. Je répète, le coup de main, c'est le béaba.
Mais ce qui est peut-être marrant quand on est comme ça en cours de pâtisserie, c'est qu'on connaît le produit final, justement. Souvent, j'imagine que les gens viennent justement pour, d'autant plus que vous êtes à la grande épicerie, essayer de reproduire. J'ai vu le millefeuille, j'ai vu. Donc là, vous déconstruisez un petit peu.
Oui, en fait, le cours de pâtisserie, nous, on a des cours pour enfants à partir de 6 ans et des cours pour adultes. Et en fait, le cours commence par une dégustation de produits. On part, mettons, sur la fraise. Là, par exemple, au mois de juin, j'ai fait un cours sur la fraise. Je me suis fait échantillonner sur toutes les fraises du marché. Déjà, dégustation pendant 30 minutes.
D'abord, l'appréhension du produit.
Et puis l'appréhension du goût aussi.
D'abord, le goûter. Ouais. On a la chance en pâtisserie. Pour goûter une sole crue, c'est plus compliqué. Pour goûter une fraise, c'est facile. un cours sur le chocolat. On commence à goûter tout plein de chocolat. Le pourcentage de cacao est une chose. L'origine en est une autre. Et comment le produit, enfin, comment le chocolat est fait. Donc, on parle produit, on goûte, on en parle, on échange. Et après, à partir du moment où on a goûté, on essaie de faire quelque chose. L'idée, c'est de prendre le produit brut et le transformer.
Et ben voilà. Et pour la transformation, on va laisser monter le suspense. On va faire une petite pause sur BFM Business. Et après, on y va, on se met au travail, on va prendre notre vrai cours de cuisine parce que là, on est prêt dans Good Luxe. À tout de suite.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et cette semaine, leçon de goût avec la fine fleur des cours de cuisine parisien. Nous sommes toujours en compagnie du chef Éric Briffard. Lui, il enseigne à l'Institut Cordon Bleu, qui est désormais cadre Beaugrenelle à Paris. En compagnie de Julien Mercier, il est chef exécutif de l'école de cuisine Alain Ducasse. En compagnie de Loïc Cabrero, c'est à la Grande Épicerie de Paris et c'est pour des cours de pâtisserie. Et de Julien Lenné, chef donc à l'atelier des chefs là sur Paris. Je vous donne pas toutes les adresses parce que c'est pareil, il y a plusieurs adresses, 5 vous me disiez. Sur Paris. On parlait avec vous des différentes propositions et tout ça commence par le produit, bien évidemment. J'aimerais qu'on voit, on va prendre avec vous un cours avec les produits du moment. Par exemple, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait chez Alain Ducasse ? Ne me parlez pas de sport et nutrition.
Hein. D'accord.
Parce que nous, le sport, on a arrêté avec Emmanuel. Non, je rigole, mais... Qu'est-ce que vous proposez comme genre de cours chez Alain Ducasse ?
On va avoir quasiment une trentaine de thèmes. Donc ça va de la cuisine sur la cuisine de bistrot, les cuisines de 3 étoiles, où là on va se servir des plats qui arrivent des restaurants du Meurice, qui arrivent du Plaza, qui arrivent du Louis XV. Donc on va avoir toutes ces recettes de restaurants. On a l'avantage d'avoir les 20 restaurants du groupe qui nous envoient leurs recettes.
Carrément, vous reproduisez.
Oui, on reprend toutes les recettes de restaurants.
Donc là, il y a une sélection, j'allais dire, comme dans un restaurant. On ouvre d'abord la carte avec, dans les cours de cuisine. Et donc, il y a une trentaine de thèmes. Ouais. Est-ce que c'est aussi placé par niveau ? Parce que j'imagine que on va peut-être pas attaquer directement une certaine cuisine, parce qu'il faut que, la cuisine du Plaza, actuellement, faut avoir un sacré niveau. Ouais. Est-ce que vous conseillez les gens d'y attendre, quand vous n'avez jamais la cuisine et que vous ne connaissez pas trop
faites
bien,
de la brasserie,
commencez par être des novices.
On va proposer d'aller d'abord sur les cours bistrot, sur les cours qui est une cuisine plus qu'on connaît mieux, qui est une cuisine plus un peu de nos grands-mères, donc qui est plus accessible et plus facilement reproductible. Après, pour les gens qui sont un peu plus habitués, c'est clair qu'on va les envoyer tout de suite vers les cuisines des 3 étoiles, où on va avoir les choses les plus techniques avec les produits les plus délicats à travailler.
Et sur ceux qui insisteraient, dire non, moi je veux directement passer au niveau Plaza, gastro, vous leur dites non, vous n'allez pas suivre ou vous les laissez
non,
faire.
Non, on les laisse faire, mais après c'est à nous de. Non, on ne va pas les laisser se planter, ce n'est pas le but. C'est à nous, après c'est nous qui allons faire le niveau, qui allons nous débrouiller pour qu'ils puissent suivre et comprendre facilement et être capable de reproduire à la fin.
Alors nous, on est humble avec Karine, on est très humble.
Ah, ouais.
On est nuls en cuisine. On va prendre, ce serait quoi le bon cours pour deux personnalités comme nous qui adorons ça, mais qui n'avons ni la gestuelle ni la connaissance. Ce serait quoi le bon cours en ce moment chez Ducasse ?
C'est compliqué.
Allez,
ça.
Amenez-moi au bistrot.
On va faire le cours bistrot. C'est celui que je préfère le plus, parce que c'est vraiment des plats simples. On va faire en ce moment, on fait le poulet à l'écrevisse. On fait ce genre de plats qui sont vraiment des plats traditionnels. On va faire le canard aux olives, on va faire tous ces plats. Voilà, quoi. Puis qu'on est sûr de retrouver aussi dans les restaurants de M. Ducasse.
Est-ce qu'on déguste sur place ?
Oui.
Ça, c'est important
tout ce
aussi.
Qui est, on fait que du sur place. On ne veut pas que les gens repartent avec. Parce que le but, c'est qu'on va préparer et on va goûter vraiment comme si on était au restaurant.
Et ensemble.
On va leur faire dresser l'assiette. On va se mettre autour de la table, ouvrir une bouteille de vin et avoir le moment convivial du repas.
Et, ouais, et la dégustation, c'est important
aussi.
Raconter comment vous avez transformé vos olives, comment elles sont devenues.
Et ça permet de reparler avec les gens, de résumer un peu ce qu'on a fait, de leur expliquer, d'avoir des questions sur un peu tout... tout ce qu'on a fait, et puis des questions qui débordent forcément sur d'autres sujets, parce que les gens, en général, qui sont passionnés, ont plein de sujets sur la cuisine. Et après, c'est surtout de comprendre le plat et de...
Ça dure combien de temps, un cours, à faire un canard aux olives ?
On a des courses de 4 heures, et sur la journée aussi, même des cours de 2 heures, où on fait qu'un seul plat.
C'est de lèvres à la royale.
Sur 4 heures.
L'atelier des chefs, ce qui marche pas mal pour vous, c'est le monoproduit.
Alors nous, effectivement, on a des cours qui sont beaucoup plus petits, parce que nous, on va de la demi-heure jusqu'à 2 heures.
Là, on peut venir entre midi et 2.
Exactement. En fait, on a une formule qui est sur la pause déjeuner, qui est en une demi-heure.
On va faire un sandwich.
Mais vous allez apprendre des plats typiques comme un risotto, vous allez pouvoir apprendre à...
C'est bon timing, de
juste pour épater sa petite amie le soir.
Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que les gens, et on travaille avec beaucoup d'entreprises aux alentours des ateliers, qui le midi en avaient peut-être un petit peu marre d'aller toujours au même restaurant, de manger finalement.
Donc ils viennent chez vous faire
Ils viennent chez nous sur la pause du déjeuner, ça leur coûte pas beaucoup plus cher finalement de venir chez nous, de prendre un plat, puisqu'après ils vont pouvoir prendre un dessert, un verre de vin, un café, choses comme ça. Et finalement la formule entière leur coûte pas plus cher que d'aller au bistrot.
C'est déjà un incentive d'entreprise.
Exactement, on va avoir des gens qui viennent d'entreprises de différents secteurs qui se retrouvent à midi chez nous, ils mangent, on passe sur une grande table où on a une dégustation. Nous, on peut aller jusqu'à 20 personnes en dégustation. Donc, pareil, on fait une grande tablée. Effectivement, on ouvre une bonne bouteille de vin. Le dessert est préparé le matin en amont par les chefs.
Mais voilà, ce qui est
donc, les horaires, on dit, vous modulez sur les horaires. Mais au-delà de ça, ce que disait Karine, le côté monoproduit...
Le monoproduit marche très, très bien.
On a l'impression que le chef est très captif des tendances de la gastronomie.
On a un cours qui est très prisé, on va dire, par les clients. C'est ce qu'on appelle le cours technique. C'est 2 heures où on va travailler sur un produit. Ça peut être une pintade, ça peut être un bar, portion par personne. Et les gens, on va avoir effectivement... leur pintade devant eux, ils vont apprendre à la vider, à la biller, à la plumer, à la découper, et finalement on va faire 3 ou 4 recettes, que ça soit avec le suprême, la cuisse, la carcasse, parce que nous on n'aime pas jeter, donc on va leur apprendre ce qu'ils peuvent en faire, et voilà, effectivement ça c'est des produits qui marchent énormément, parce que un poulet, les gens ont toujours un poulet rôti, ils ont 4 recettes avec un produit, et ils sortent du classique poulet rôti qu'ils ont mis juste au four. Avec des patates à côté.
Et pour les jours d'après.
Voilà, ça marche sur le poisson, ça marche sur la viande, on le fait sur des langoustines, on va pouvoir le faire sur les Saint-Jacques après, des choses comme ça. Ça marche énormément.
Au cordon bleu. Alors voilà, j'ai pris le menu. Alors il y a du 6h, il y a du 3h,
Et puis c'est modulable parce qu'on s'adapte, aux clients. Il y a des gens qui viennent en me disant on veut faire un cours que foie gras, on veut faire un cours que vegan, etc.
Que jus, que sauce.
Donc, tout ça, c'est pas un souci.
Et moi, je veux bien les financiers cake et 4 quarts, ça, je pense que c'est mon niveau. Ça, c'est pas mal.
Effectivement, c'est très couru. Les mamans qui viennent avec les enfants, des 6 ans également, on est ouvert à ça. Les ateliers macarons. Qui font un malheur aussi aujourd'hui. Et puis notre nouveauté, parce que là, je suis privilégié, j'ai quand même 800 mètres carrés de jardin sur le toit de l'Institut.
Ça, je voulais vous demander, vous utilisez votre potager les particuliers, vous avez le droit aussi
Tout à fait, on a un potager magnifique, donc on va cueillir les légumes avec eux, on les redescend en cuisine et toutes les herbes potagères nous servent en permanence à être utilisées. Donc il y a aussi ce côté vraiment de prise de conscience du marché, de la pédagogie.
On a fait ça maintenant.
Et ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, tout ça, ça nous sert aussi à notre café. Je viens juste d'ouvrir, il y a juste 3 semaines, le nouveau café Le Cordon Bleu.
Mais je reviens sur notre idée là, de cours. Quand vous allez justement chercher vos petites herbes, vos petits légumes là, sur le toit, là aussi, il y a plein d'herbes. On connaît le basilic, la menthe et la coriandre à la rigueur. Mais
donc
les
là, c'est bien, on s'ouvre à tout. J'ai du maïs en ce moment. J'ai des aubergines magnifiques que je fais en tempura derrière. Elles sont fermes comme tout. Le basilic rouge, pourpre, le shiso.
C'est quoi, shiso?
C'est un peu le basilic citronné japonais. Dès le début de l'année prochaine, on va déplacer des chefs du cordon bleu de Thaïlande et de Chine pour proposer aussi avec des vrais chefs d'origine. Avec une cuisine, on a une cuisine chinoise adaptée avec les wok et tout. Donc on a un matériel assez exceptionnel de ce côté-là.
Il va carrément avoir un système de résidence, quoi.
Voilà, tout à fait.
Je pense que ça marche bien aussi les cours de cuisine étrangère.
Tout à fait. Les gens sont très ouverts aujourd'hui sur la cuisine du monde, sur les saveurs, sur le mélange des saveurs. Et ça, c'est complètement ouvert. Il y a les techniques de la cuisine française, mais il y a aussi le panel de la cuisine du monde.
Alors c'est vraiment des écoles, mais quand on a la grande épicerie. Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de l'appréhension du produit, que vous aviez travaillé au mois de juin autour de la fraise. Avant d'aller dans le laboratoire de pâtisserie, j'imagine que vous êtes bien servi, vous avez déjà votre
épicerie. C'est ça, vous n'avez pas le potager sur toi, mais vous avez tout.
Nous, on a la chance, en fait, on a un plein cœur du 7e, on a déjà le marché, en fait. Voilà, donc c'est arrivé sur certains cours qu'on aille faire les courses dans le magasin pour aller travailler, pour aller choisir un citron aux fruits et légumes, pour aller chercher un chocolat au rayon, pour aller chercher un sucre bien spécial.
Mais costaud.
C'est le timbre de la gastronomie en plein cœur du 7e. On a vraiment cette chance-là. Et je reviens par rapport au cordon bleu. J'ai fait mettre des ruches au-dessus de la grande épicerie pour
qu'on
produire,
a également.
Pour produire un gâteau que l'on a en ce moment, en fait. Voilà. Et on a des jardins également pour le personnel au-dessus de la grande épicerie pour avoir une culture produit. Et un cours de pâtisserie. Il y a également des cours de cuisine, des cours d'œnologie à la grande épicerie, et c'est donné par les chefs. C'est des cours privilégiés, c'est des cours de 4 personnes maximum. C'est des petits laboratoires. On est 2 en pâtisserie. Il y a 2 chefs en cuisine et.
C'est pas de sup, quoi. Il y a maths sup et il y a pas de sup, là. C'est vraiment l'école préparatoire.
Non, c'est vraiment. Le but, c'est d'encadrer. Donc, c'est enfants à partir de 6 ans et adultes. Le mercredi après-midi et le samedi sur la pâtisserie. Le mercredi, le samedi en boulangerie.
Qu'est-ce qu'on fait là en ce moment? Parce que les fraises, c'est passé, ça c'est fini. Mais là, en ce moment, vous êtes sur quoi?
En barbe.
On est en fin de figue. En ce moment, on a de très très belles figues. On a le chocolat. Samedi, c'est un samedi après-midi, c'est un cours sur le chocolat. Voilà, c'est le mariage du chocolat, un streusel chocolat, un crème chocolat. On va travailler tout autour du chocolat.
Et l'idée, c'est de partir en 2 heures.
En 2 heures, on fait les cours de 2 heures. On part d'une thématique et on part. L'idée, tous les mois, on a un gâteau de la pâtisserie qu'on vend à la pâtisserie. On le réalise en 2 heures.
Et c'est ça.
L'idée, c'est ça, et que le client, que la personne parte avec le même gâteau qu'il a réalisé sur place.
Aussi, ils emportent toutes les voitures.
L'idée, c'est de.
Mais c'est intéressant parce que c'est différent. Voilà, c'est différentes approches, et c'est vrai que là, on a un beau panel.
Très sincèrement, puisque vous êtes des professeurs, c'est quoi le taux de réussite, j'allais dire, au bout de 2 heures? Alors, parce qu'il y a un mot qui revient, vous n'avez pas employé, mais qui, votre manière de désacraliser, c'est la vérité, c'est ce qui se passe quand on apprend la cuisine dans les brigades, c'est le mimétisme. Et c'est pas un reproche. Au contraire, c'est la grande force des chefs, c'est qu'ils t'apprennent par mimétisme.
C'est qu'une question d'attention, de les accompagner. Moi, je vois, j'ai des chefs femmes aussi qui sont très jeunes. Donc, il y a vraiment une attention, une douceur pour apporter les gens. On sort les macarons comme au magasin. Les colorettes sont justes, le macaron vraiment fondant et tout.
Ce que je veux dire, c'est que quand on reprend tous les plats dont vous avez parlé, un gâteau au chocolat,
un
canard aux olives, c'était ça?
La
pintade. Au bout de 2 heures ou 4 heures, selon le module, les gens, très sincèrement, parce qu'ils auront appréhendé le produit et ils vous auraient vu répéter les gestes par mimétisme, j'ai pas dit qu'ils deviennent des cuisiniers accomplis, mais ils peuvent au moins faire cette recette. Et à terme, en
produisant, ils ont la recette, ils ont la technique, ils prennent leurs notes.
Et le mieux, c'est qu'ils aillent voir directement, ils vous contactent, ils viennent voir chez vous, et ils nous prouveront en fait que effectivement, c'est possible. Il y a que nous, Emmanuel et moi, qui resterons un petit peu gaucher de nos mains, mais c'est pour que vous nous appreniez, que vous continuiez à nous proposer toutes ces belles choses.
En vérité, pour en avoir fait une fois. Mais vraiment, j'insiste sur ce côté pédagogique et mimétique. Je te promets que quand tu écoutes et que tu regardes bien, c'est impressionné de toi-même. Tu arrives effectivement. Moi, j'ai fait dernièrement un cours de pesto. Et ben, 20 minutes plus tard, j'allais faire un pesto.
C'est des beaux cadeaux de fête de fin d'année.
Exactement. Alors, allez-y.
Vous avez des bons chefs.
Merci beaucoup à vous. Éric Grimard, chef exécutif et directeur des arts culinaires à l'Institut Cordon Bleu. Julien Mercier, chef exécutif de l'école de cuisine Alain Ducasse. Loïc Cabrero, chef pâtissier de la grande épicerie de Paris. Et Julien Lenné, chef pour l'atelier des chefs. Merci infiniment à tous les cas. J'ai faim. Pour l'heure, c'est le livre de la semaine.
Ça va, c'est la semaine du goût pendant une semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, le livre de la semaine.
Oui, le livre de la semaine dans quelques secondes. Mais d'abord, je vous présente Stéphane Breyer. Bonjour.
Bonjour Karine.
Rédacteur en chef de The Good Life. Vous allez nous emmener voyager dans quelques secondes. Mais donc, d'abord, le livre de la semaine, Lancel. Lancel, anniversaire, bien sûr, 140 ans. Donc, un ouvrage, comme souvent, quand on fête un bel anniversaire. Sous la direction de Laurence Bénaïm, grande journaliste de mode, elle avait notamment écrit une monographie, un bouquin sur Yves Saint-Laurent.
La biographie de Laurence Bénaïm, fait un bras.
Exactement. Et donc là, un beau bouquin sorti chez Flammarion et aussi une expo itinérante, je n'en avais pas encore parlé, mais c'est assez marrant. Ils ont commencé début septembre sur Paris. Là, on arrive à la fin. On est à Toulouse ce week-end et du 2 au 5 novembre à Lyon. Ils ont loué un gros bus rouge, la XXL. Mmh. En fait, ils font leur expo avec toutes les... avec quelques-unes des pièces iconiques. Parce que vous savez que Lancel...
C'est un fashion truck.
Exactement. Lancel, au départ, c'était des articles pour fumeurs, notamment. Et ils ont créé aussi une radio portable. Eh ben ouais, ça on ne sait pas. Et ben voilà des choses que vous apprenez en suivant cette expo itinérante où vous trouvez aussi le sac parapluie, le briquet automatique, etc. Et donc dans ce bouquin, elle revient sur les grands moments de Lancel et aussi sur tout ce qui a fait évoluer la maison. Il y a même des cartes postales signées d'artistes et tous les rapports entre la maison Lancel et les artistes. Elle a été créée en 1876 par un monsieur Lancel, Angel Lancel, vous savez où ? Passage des petites écuries dans le 10e.
10e arrondissement de Paris.
Qui l'eût cru ? Eh ben voilà, en tout cas, vous apprenez tout ça dans ce bel ouvrage, Lancel, 140 ans. Et maintenant, c'est parti pour le voyage.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Stéphane Marie.
The Good Life.
Mais c'est un peu ça. The Good Life.
On est toujours accueillis comme ça, c'est bien.
Mais oui, un condensé, vous nous faites faire le tour du monde en une revue. En fait, c'est un peu ça. Et surtout. Vous nous faites découvrir des choses qu'on n'imagine pas. Par exemple, vous nous emmenez à Bangkok. Bangkok, on connaît.
Oui.
Sauf qu'on ne connaît pas tel que vous nous le racontez.
Non, parce que Bangkok, on y va toujours. C'est un peu une escale. C'est la ville escale. Enfin, grosso modo, on part en vacances, on va en Thaïlande, on est obligé d'arriver à Bangkok et puis c'est un hub, quoi. En fait, c'est dommage de ne pas rester. C'est vraiment dommage. C'est une ville, d'abord, c'est plutôt sympa. Il y a des restos absolument hallucinants, des très beaux hôtels. Et économiquement, c'est une ville qui est extrêmement intéressante. C'est la troisième économie de l'Asie du Sud-Est. On oublie, mais je veux dire, c'est juste derrière Singapour et Hong Kong. Donc c'est foisonnant, il se passe plein de choses.
C'est ce qui fait aussi que la ville est assez fatigante à vivre.
Alors c'est une ville qui est épuisante. C'est une ville épuisante. Ça c'est vrai, parce que ça bouillonne. Il y a des travaux en permanence. On circule. Il faut dire ce qu'il y a quand même extrêmement mal, c'est en permanence bouché. Mais il y a énormément de choses à découvrir en dehors de ce que finalement on découvre quand on y reste deux jours.
De l'art contemporain notamment.
Alors il y a un peu d'art contemporain, c'est encore un peu balbutiant, mais il y a un peu d'art contemporain. C'est une ville marrante parce que en fait il y a un siècle, l'épicentre de Bangkok était le long du fleuve avec l'hôtel mythique de Mandarin Chao Phraya, avec le mandarin où tout le monde allait, tous les écrivains allaient là. Puis ça s'est parti vers le nord, donc maintenant c'est devenu une espèce de petit Manhattan le long du parc Lumphini. Et en fait, ça revient vers le fleuve et il y a des gens qui sont en train de récupérer des friches. Il y a notamment un architecte qu'on a rencontré qui ouvre des restaurants. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a un argent dingue. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce qu'on ne sait pas vu de Paris, c'est qu'il y a des entreprises colossales qui sont propriétaires de biens de consommation que nous consommons tous les jours. Je pense à des boîtes de thon, par exemple. Et ça appartient à des Thaïlandais parce qu'en fait, il y a des conglomérats énorme, tout appartenant à une quarantaine de familles, grosso modo, toutes d'origine chinoise, parce que c'est une ville où il y a toujours eu beaucoup d'immigration, c'est un carrefour, quoi. Donc, c'est une ville qui a été assez fascinante, enfin, pour les journalistes qui y sont allés, assez saisissante, parce que, en fait, ils allaient de surprise en surprise. En fait, on a plein d'idées préconçues sur Bangkok, et c'est beaucoup plus que ça. Donc, faut vraiment y aller. En plus, comme ils ont de l'argent, ils font travailler plein d'architectes, il y a plein de choses qui se passent. Voilà.
Dans l'article, c'est que finalement, quand on arrive à Bangkok, on a du mal à l'appréhender parce que c'est effectivement brouillant. Et là, ce qu'on raconte l'actrice, c'est un peu comme beaucoup de grandes capitales à travers le monde, elles se réinventent quartier par quartier.
Exactement.
Il ne faut pas essayer d'appréhender tout Bangkok, c'est impossible.
Non, c'est impossible.
Mais aujourd'hui, il y a plein de quartiers. Et il y en a un qu'on peut peut-être éviter, parce qu'on pratique de toute façon, c'est le fameux Patpong, qui est le marché du sexe. Bon, ça, ok, vous y passez 24 heures si vous voulez. Mais après, effectivement, il y a des vraies friches, des vrais quartiers à la manière de Londres, Paris.
Ouais. D'ailleurs, et ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que c'est quand même une des villes les plus. Pour nous, on s'en fiche un peu, mais c'est une des villes les plus connectées du monde. Ce serait la ville où il y a le plus d'inscrits sur Facebook dans le monde. C'est dire la modernité dans laquelle le Bangkok s'inscrit. Alors après, tout n'est pas rose, hein, parce que tout part sur le tourisme, évidemment, et l'industrie, parce qu'ils sont sous-traitants, grosso modo. La Thaïlande, c'est quand même la Thaïlande est le 12e constructeur mondial de voitures et le 3e de deux roues. Donc c'est dire la marche. Il y a un taux de chômage qui est en dessous de 1%, donc comme ça on dirait que c'est un Eldorado. Maintenant ils ont des problèmes parce qu'ils même si la balance commerciale est excédentaire, enfin je veux dire on a eu un coup d'État il y a encore 2 ans, enfin bon, mais
c'est
une ville en plein, c'est comme si la ville était à la croisée des chemins, c'est entre le pays en voie de développement et quand même la troisième économie de l'Asie du Sud-Est, donc
une ville en ébullition.
Faut y aller
maintenant, un petit carnet de voyage dans The Good Life. Le centre de Houston.
Oui, alors Houston, c'est vrai que Hello Houston, Texas, ça fait pas rêver du tout. Oui, ouais. Surtout qu'en plus, nous, on se dit Texas, ça nous donne pas vraiment envie.
En fait, c'est ça votre truc, c'est de dire nous, on vous fait découvrir les endroits dont vous n'auriez pas envie.
Parce que Houston, qui est la ville la plus étendue des États-Unis, c'est la quatrième ville des États-Unis, elle est encore moins dense que Los Angeles. Donc c'est dire comme il y a de la place. Et donc, en fait, tout était sur les voitures. Et en fait, maintenant, c'est une... Puis il y avait la lutte avec Austin, parce que Austin, c'était la musique, la capitale branchée, aussi, etc. La capitale, puis il y a Dallas, enfin bref.
Bon. Donc maintenant, on y voit quoi dans
Mais maintenant, à Houston, il y a des gens qui se sont complètement réappropriés Midtown, c'est-à-dire le centre-ville, et qu'on appelle des loopers, c'est-à-dire sont des gens qui ne circulent qu'en vélo, qui ont quand même une voiture, mais qui ne circulent qu'en vélo et qui ne passent pas, c'est comme s'ils ne passaient pas le périph.
Ah d'accord,
voilà.
C'est des hipsters.
C'est un autre nom, c'est plus marrant.
C'est joli, des loopers.
C'est quand même, ça fait plus rêver. Il y a tout un tas de bars avec des mixologues passionnants, de restaurants, de galeries ultra pointues, parce que là c'est pareil, parce que finalement le nerf de la guerre c'est quoi? C'est l'argent. Hein. Ouais. Bon. Donc il y a beaucoup d'argent à Houston. Il y a 22 des plus grandes, enfin sur les 500 plus grandes entreprises américaines, il y en a 22 à Houston, mais quand même. Donc il n'y a pas que la NASA. Il y a encore plein d'autres choses. Bon. Et donc, tout ça, tous ces gens-là, il faut bien qu'ils dépensent de l'argent. Ils le dépensent dans quoi? Dans l'art, parce que c'est quand même beaucoup plus tendance maintenant. Donc, il y a des galeries.
Il y a
donc,
c'était dans le golf, maintenant, c'est dans l'art.
Voilà, exactement. Et donc, c'est une ville qu'il faut absolument découvrir.
Houston. Et on termine par la Cornouaille.
Oui, alors là, c'est plus classique, parce que finalement, on a voulu aller sur les traces de Daphné du Maurier. Alors, on a un petit peu, on a pris des chemins de traverse, mais.
Rappelle, hein,
mais c'est un peu sauvage.
Ah, bah oui, bon, et puis on a tous en mémoire, exactement, le film de Rebecca où on était terrorisés dès qu'on voyait arriver la gouvernante. Bon, bah là, on est allé un petit peu dans cette espèce de côte complètement déchiquetée, découpée, où on a l'impression que rien n'a bougé depuis qu'elle a écrit ses romans, sachant qu'elle vivait là quand même. Bon. Alors malheureusement, le fameux manoir, on ne peut pas le visiter. Hein. Faut pas... Même sa maison, c'est son fils qui y habite, on ne peut pas le visiter.
Mais du coup, c'est un peu stressant
là-bas ou ça va? Non, il paraît que c'est très très calme, très apaisant et que c'est absolument, absolument magique.
Et très loin de tout.
Et très loin de tout, alors que c'est juste à côté de chez nous.
Voilà, alors que c'est très dépaysant.
C'est la Manche. Exactement. Oui, c'est juste au sud après,
un petit peu de voiture. On y trouve The Good Life. Merci beaucoup, Stéphane Brie. Vous restez encore un petit peu avec nous? Nous, on a un petit agenda à faire.
Hein, allez, si ça vous en avec pas. Plaisir.
Allez, l'agenda.
Good Lux Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Justement, vous partez on the road, Emmanuel.
Ah oui, c'est ce week-end. Ouais. Alors, c'est une vente de notre très chère maison Arcurial et notamment du département Motor Cars. Ils s'amusent ces derniers temps à, vous savez, délocaliser. Là, ça a lieu à une heure de Paris, à peu près une heure et demie, en Normandie, à Château-sur-Epte. Et ils vont disperser. Alors, exposition qui a commencé ce week-end et puis qui sera dispersée ce dimanche à 15h. Dépêchez-vous. Pas loin de 80 véhicules. L'histoire est jolie. Finalement, pourquoi ça a lieu à Château-sur-Epte? Parce que là, il y avait un certain André Weber. André Weber, il dirigeait une station-service dans les années 60. Il avait bien sûr un garagiste pur et dur. Mais vous savez, c'est la grande époque quand même de l'âge d'or automobile. Donc, c'est les années 60. Et lui, il a une passion, c'est de commencer une collection. Il va commencer une petite collection, puis elle va grandir, elle va grossir. Avec une ligne de fuite tout de même, c'est l'amour des belles américaines et de l'âge d'or américain. Finalement, André Weber, à la fin, il arrive avec pas moins de 80 pièces. Elles sont toutes dispersées ce week-end. Encore une fois, ce qu'il y a d'intéressant, il n'y a pas une pièce effectivement maîtresse. Mais pour qui aime les belles américaines, les Buick, les Ford Vedette, les Cadillac, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils prenaient aussi des véhicules français. Vous allez avoir des Peugeot, des Simca, mais d'inspiration américaine. Si vraiment vous aimez cette belle carrosserie, et c'est là que ça joue d'abord et surtout des années 50, 60, un tout petit peu 70, alors il y a une très très belle collection qui va être dispersée ce week-end. En plus, c'est assez touchant parce que finalement, on est dans les terres de ce collectionneur, et ces collectionneurs, c'est vraiment des drôles d'oiseaux, parce qu'on se demande comment il arrivait à parquer toutes ces voitures.
Encore,
c'est hallucinant. Ah ben non, c'est parce que c'est justement sa descendance qui disperse. Ben avec voilà. En plus des espèces d'ovnis, notamment la dernière pièce qui sera dispersée. Alors là, c'est un camion Citroën Belphégor, c'est un camion Ben.
D'accord.
Alors, c'est ça qui est drôle dans cette
blanc.
Collection, elle part un peu dans tous les sens, avec comme une dominante américaine, elle est jolie. Et le catalogue, comme toujours, chez Arcurial, très réussi.
Et qu'est-ce que vous voulez faire avec un camion Ben
Rien du tout, c'est ça la magie.
Non mais parce que moi je veux bien, il est beau, il est blanc, d'accord, mais...
Ah bah c'est ça la collection, il n'y a aucune logique.
Vous voulez, Stéphane, un petit camion Ben? Un petit camion Ben?
Et pourquoi vous iriez sur les traces de Daphné du Maurier?
3-5 000 euros le petit camion Ben, bon bref.
C'est pas cher, hein.
Pas cher. Alors, c'est pas cher. Alors, en revanche, ouais. Je vous propose peut-être
ça. Vous allez faire un food truck.
Là, je vous y vois un peu
oui,
plus.
Oui, c'est ça.
Je vous y vois un peu plus, Stéphane. Chez Piaget, Oui. Ambiance club, ambiance lounge. On est au 7 rue de la Paix jusqu'au 15 novembre. Ils se sont dit pour la nouvelle collection horlogère homme, là, on va faire un truc pour ces messieurs, genre Piaget Society. Vous voyez, un petit peu à l'époque où Yves Piaget donnait ses petites fêtes à Miami, à New York ou encore à Monaco. On est dans un... C'est feutré, c'est redécoré pour l'occasion en cercle privé. Et vous avez là la dernière collection horlogère masculine que l'on vous présente avec une petite coupe de champagne et une création de notre ami Jean-François Piège, le chef. Il est ambassadeur de la collection et donc vous avez une petite balle de polo, en fait une sphère en chocolat que vous cassez, donc voilà la petite douceur et tout. Et en plus on vous propose un match de polo en réalité augmentée à travers un masque 3D. Voilà un petit moment sympa pour vous messieurs, non ?
Pas de problème.
Ça se passe chez Piaget jusqu'au 7 novembre. Ça s'appelle Play a Different Game. Et nous allons jouer une différente émission la semaine prochaine parce que c'est terminé, Emmanuel. Je rigole parce que ça fait à peu près un mois, je pense depuis la rentrée, Emmanuel veut nous parler d'une information à venir. On fait monter le suspense.
C'est un resto éphémère qui est toujours pas prêt, donc heureusement. Mais je vous jure qu'on en parle la semaine prochaine. Je le place en première position de l'agenda.
Voilà. En attendant, merci encore à vous, Stéphane Marie.
Merci beaucoup.
Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec vous et Emmanuel Rubin. Good Luck, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt.
BFM Business, Good Luck Paris, l'édition du week-end.